Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alizée Lichty.
Influence de la télé-réalité, culte de l'apparence, volonté de rester jeune. En arrivant dans la clinique biennoise de mon invité, je me suis posé un tas de questions. Une fois dans la salle d'attente, j'ai eu l'impression de me rendre chez le médecin. À mes côtés, une patiente qui ne ressemblait ni à Kim Kardashian, ni à Uma Thurman. Je me suis donc dit que tout le monde pouvait avoir besoin ou envie de passer sur le billard. J'ai ensuite pu découvrir le bureau, mais aussi la petite salle d'opération de la maison. Quelques pinces, scalpels et sparadrap m'ont sauté aux yeux, mais rien de très dramatique. Pas de sang, pas de bistouri. La grande salle d'opération ressemblait à une salle d'op tout à fait banale. Vous l'aurez compris, nous allons parler de liposuction, d'implants et de botox ce soir. Depuis plusieurs années, le marché de l'esthétique ne prend pas une ride et vous non plus, puisque vous en avez fait votre métier. Daniel Knouti, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études ?
J'ai fait les études de médecine à Berne. Et puis après, je me suis spécialisé d'abord en chirurgie générale et puis après en chirurgie esthétique.
Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de la chirurgie esthétique ?
Tout d'abord, la chirurgie, c'est quelque chose de dynamique et de dramatique. On change véritablement quelque chose. Et l'évolution de la chirurgie, c'est la chirurgie réparatrice et esthétique, où il y a aussi un phénomène artistique, créatif, qui c'est sur la surface, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant. C'est peut-être ça qui m'intéressait toujours.
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours professionnel après vos études ?
Alors après mes études, j'ai fait quelques hôpitaux ici en Suisse. J'étais pendant pas mal de temps aussi à Bienne pour perfectionner la chirurgie générale. Après, j'étais à l'université de Berne pour la chirurgie plastique et reconstructif. Et quand j'avais mon titre, j'étais chef de clinique à Berne, ce qui est un pas important parce que c'est là qu'on prend la responsabilité. Et puis après ça, je suis parti aux États-Unis pour perfectionner un peu l'esthétique.
C'est aux États-Unis qu'il y a vraiment les meilleurs chirurgiens esthétiques ?
Aujourd'hui, non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, la planète est devenue si petite que tout le monde se connaît, et quand il y a une nouveauté à quelque part, le lendemain, tout le monde le sait. Mais effectivement, peut-être il y a quand même 30 ans en arrière, les États-Unis, ils étaient un peu en avance, avec le Brésil peut-être. Donc c'était un endroit bien pour apprendre.
Est-ce qu'à cette époque, la chirurgie plastique était déjà à la mode ?
Bon, la chirurgie plastique peut-être oui, parce que mais plutôt avec l'idée de la chirurgie réparatrice, ce qui était aussi accepté ici en Suisse. Tandis qu'il y a 30 ans, ici, l'esthétique, c'était quand même encore un tabou.
À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « je vais ouvrir ma propre clinique » ?
Quand je suis revenu des États-Unis, il y a deux chemins principalement. Soit on fait une carrière universitaire, où on se met en privé, et là je savais que j'étais plutôt fait pour le privé. C'était en 88 que j'ai ouvert ma clinique ici à Bienne.
Est-ce qu'au début c'était simple, puisque vous l'avez dit, la chirurgie esthétique ici c'était encore tabou, c'était pas du tout connu. Comment ça s'est passé à vos débuts ?
Non, c'était pas du tout simple, parce que effectivement j'étais le premier à Bienne, c'était inconnu. Et la partie esthétique, en tout cas, ça prenait pas mal de temps pour s'établir. Mais au début, j'ai fait un peu beaucoup de chirurgie réparatrice, j'ai fait la chirurgie de la main, j'ai fait beaucoup d'urgences, des motards qui avaient le visage cassé, etc.
C'est à quel moment que vraiment le phénomène a pris, on peut dire ?
Je crois que petit à petit, ça s'est devenu plus quelque chose d'accepté et de normal. Et aujourd'hui, on peut dire que tout le monde accepte cette chirurgie. Ça fait partie aussi, et c'est important, parce que finalement, c'est aussi important pour se sentir bien dans sa peau. Des fois, il y a quelque chose d'esthétique qui peut gêner beaucoup.
On a un petit peu fait connaissance avec vous. On va maintenant entrer dans le sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une clinique de chirurgie esthétique ?
C'est une palette énorme d'interventions. Bon, l'esthétique, il y a deux choses. C'est la beauté, en principe, et les problèmes du vieillissement. Donc, il y a aussi deux groupes de gens, si vous voulez, qui sont intéressés. Il y a des jeunes, Et effectivement, ces temps, vous savez bien, le hype de la beauté est très important. Les jeunes, ils vont faire du fitness tous les jours, ils se nourrissent bien, et ils n'acceptent aucun petit défaut. Donc là, je pense à la liposuction pour un petit bourrelet de graisse ou les seins, etc. Et de l'autre côté, il y a l'âge, donc on vieillit. Là aussi, la société a changé, dans le sens que on est plus conscient de l'importance de la santé. Donc les gens, ils sont même à 60 ans, 70 ans, ils sont en bonne santé, ils sont encore vifs dans la tête, et souvent, ils cherchent l'harmonie avec l'extérieur. Et c'est là qu'ils viennent pour des petits gestes, poche sous les yeux ou un lifting, des choses comme ça.
Daniel Knouti, vous êtes à la tête d'une clinique avec 5 employés et des freelances. Quels sont les métiers dont vous avez besoin autour de vous pour vous épauler au quotidien?
Principalement, j'ai autour de moi tous les jours 2 infirmières de salle d'opération. Après, on a une esthéticienne, on a une secrétaire médicale, et puis il y a plein de gens qui viennent sur demande. Par exemple, infirmière de nuit ou pour les travaux de secrétariat, il y a d'autres gens qui font aussi.
Quelles sont les interventions qui sont le plus pratiquées aujourd'hui?
Chez moi, c'est aussi une question de préférence. J'aime beaucoup le visage, donc je fais beaucoup d'interventions du visage, lifting, nez, paupières, etc. Et dessin. Et après aussi, ce qui concerne la silhouette, là, il y a les abdominoplasties, les implants de fesses, la liposuction, etc. Et puis après, il y a toute une palette d'interventions non chirurgicales, comme le botox, les fillers, donc l'acide hyaluronique, les peelings, la cryolipolyse, l'épilation par laser. Donc il y a énormément de choses qui n'ont rien à voir avec la salle d'op ou le bistouri.
Est-ce que vous êtes réputé pour quelque chose, une intervention en particulier?
Oui, je crois que j'ai une petite réputation pour le lifting. J'en fais beaucoup de lifting et j'adore faire ça. Et maintenant, au fur et à mesure, les gens me connaissent un peu pour ça.
On l'a dit, il y a quelques années, toutes ces opérations, c'était tabou. Maintenant, est-ce que vous pensez que ça l'est encore?
Non, je pense pas, parce que la différence est telle qu'il y a 30 ans, les gens venaient chez moi comme en état d'urgence. Ils ont souffert pendant des années, et puis après, ils supportaient plus, ils arrivaient, il fallait les opérer le lendemain. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus souples. Ils viennent pour s'informer, ils repartent, ils vont peut-être ailleurs pour avoir un deuxième avis, et puis après, ils se font opérer ou pas. C'est beaucoup plus léger.
Pour vous, c'est important justement, lorsque l'on choisit son chirurgien esthétique, d'avoir 2 avis, 3 avis?
Tout à fait. Je recommande vivement de demander un deuxième ou même un troisième avis. Ça coûte rien ou pas grand-chose, et ça donne quand même aux patients ou aux clients un bon feeling. Il y a tellement de choses qui doivent jouer. Pas seulement que ce chirurgien il connaît son métier, mais je pense que même le contact personnel est important, parce que il faut se sentir à l'aise avant de se mettre sur le billard pour se faire opérer, je trouve.
Vous me l'avez dit en préparant cette émission, ce qui a surtout changé ces dernières années, c'est la demande. Avant, les gens venaient vous voir lorsqu'ils se regardaient dans le miroir et ils se disaient, là, c'est vraiment le dernier moment. Maintenant, les gens viennent plus tôt. Quel est l'avantage pour vous?
Moi, c'est plutôt un avantage pour les gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens viennent plus tôt. On a plutôt tendance à vouloir rester jeune ou rester pareil, pas vieillir, que d'attendre jusqu'à ce qu'on ne supporte plus, après se soumettre à une intervention lourde. Donc aujourd'hui, le trend est plutôt de venir plus tôt, soumettre à un geste plus léger, et peut-être 10 ans plus tard, encore un geste un peu léger, que seulement une fois, une intervention lourde.
On parle d'intervention lourde. Il y a beaucoup de gens qui ne franchissent pas le pas de la chirurgie esthétique parce qu'ils ont peur. Est-ce qu'il y a réellement des risques?
Bien sûr, il y a des risques. Il n'y a aucune chirurgie, qui est sans risque. Mais je pense que la chose cruciale, c'est le management des risques. C'est pas que c'est pas dangereux, c'est même, on peut dire, la chirurgie est dangereuse. Mais on a des moyens aujourd'hui, on a des médicaments, on a un équipement, on a une formation, on a tout pour minimiser ces risques. C'est comme dans l'aviation. Un avion, c'est pas sûr en soi. Si vous faites une fausse manipulation, vous tombez. Si vous traversez un orage, vous pouvez tomber, etc. Donc c'est là aussi un matériel en principe parfait et une formation parfaite des pilotes qui fait qu'à la fin, c'est effectivement très sûr. Et en médecine, c'est pareil. Mais seulement qu'en médecine, il y a plus de variations parce que chaque individu est un peu différent de l'autre. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, puisqu'il s'agit surtout de patients en bonne santé, quand on fait la chirurgie esthétique, les risques sont vraiment extrêmement petits.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser une intervention parce que justement un patient était un patient à risque ?
Absolument, et ça arrive plus souvent qu'on le pense. Prenez l'exemple de quelqu'un, même s'il est jeune, qu'il a peut-être quelques maladies, que avec toute l'expérience qu'on a, on doit dire que là, on a quand même un risque majeur. Là, on est des fois obligé de dire, écoutez, monsieur ou madame, je suis désolé, mais je veux pas vous opérer.
On a évoqué tout à l'heure le Botox, l'acide hyaluronique, c'est des choses qui sont assez en vogue, on en parle pas mal en ce moment, mais comme c'est assez récent, est-ce qu'on a assez de recul pour dire qu'il n'y a vraiment pas de danger pour la santé ?
Alors, ils ne sont pas vraiment récents, ça, on connaît ces choses depuis 20 ans. Et le Botox et l'acide hyaluronique qui est le filler important. On a énormément de recul, on sait aujourd'hui qu'ils sont pas nuisibles. On avait un peu de soucis avec des fillers un certain temps parce que au début, quand on commençait avec ces fillers, on avait plein de produits aussi qui n'étaient pas résorbables. Et là, on a des fois eu des soucis. Aujourd'hui, on n'utilise que des matériaux qui se dégradent. Et puis, on a quasiment pas de soucis avec ça. Le Botox, c'est aussi quelque chose de extrêmement fiable, où on a pas de soucis.
Nadia Schmirou s'est introduite dans votre cabinet, docteur Knouti, et vous étiez sur le point de procéder à une injection de Botox.
Sortie de boîte.
La toxine botulique, comme tout le monde l'appelle Botox, est un excellent moyen pour calmer les muscles qui ont trop de tonus. Et comme vous savez que même en état de décontraction, les muscles du visage ont un certain tonus. Et il y a beaucoup de gens qui ont énormément de tonus, par exemple les rides du lion, et il y a des gens qui ont les rides du lion tout le temps, même s'ils sont en état de décontraction. Donc avec le Botox, on arrive à calmer ces muscles pour qu'on ait un aspect décontracté.
Et lisse.
Et lisse, évidemment.
J'ose vous demander votre âge.
J'ai 32 ans.
Et puis, faire du Botox, c'est pas la première fois, vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez commencé comment ?
Ben, je connaissais le Botox et puis j'avais cette ride, surtout celle-là, c'est celle qui me dérange le plus. C'est la ride du lion, celle-là, entre les sourcils, qui devenait toujours plus prononcée. Je me suis dit que mieux valait s'y prendre tôt avant que ça ne parte plus.
Puis donc là, vous préparez.
Alors moi, je prépare la toxine botulique. Elle arrive lyophilisée et frais. Et donc, il faut la transporter et la conserver dans le frigo. Et puis après, elle est mélangée avec du sérum physiologique. Je sais exactement la quantité et la concentration que je veux utiliser, qui dépend du patient et du volume du muscle.
La petite crème.
Mais oui. Alors, tout d'abord, j'applique une crème anesthésiante qui est très forte.
Qui est magique.
Qui change est tout. Magique et qu'après on laisse un peu agir. Ça nous fait une anesthésie superficielle qui aide beaucoup à moins. Je ne veux pas dire qu'on ne sent plus du tout la petite aiguille, mais presque pas. Mm-hmm. Pendant ce temps, je continue à préparer.
Justement, les petites piqûres, là vous allez en faire combien ?
Vous allez voir tout à l'heure. Ça dépend beaucoup, mais il y a en tout cas une dizaine de petites piqûres. Je prends dans l'aiguille. Dans ce cas-là, 30 unités. Je parle d'unités parce qu'on ne peut pas parler de microgrammes. C'est une quantité tellement petite de toxine botulique, c'est presque homéopathique. Alors ça, c'est préparé. Maintenant, l'anesthésie a fait son effet. On passe à la désinfection. Maintenant, alors, on commence avec le traitement. Je dis aux patients, faites-moi voir les rides du lion. Très bien, maintenant tu peux décontracter.
Ça n'a pas l'air d'être très agréable.
On attend un petit peu. La patiente puisse se récupérer.
Je ne savais pas que ça saignait.
Ça pique un petit peu, oui. Bon, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Alors, les endroits typiques, c'est les rides du lion, le front et la patois. C'est ici, le coin des yeux.
Ça va?
Oui, ça va. On serre un peu les dents. Ouais. Non, mais ça fait pas vraiment mal, mais c'est désagréable.
Alors, vous voyez, le traitement est déjà terminé. Donc, vous voyez, ça dure quelques minutes à peine. Bon, il faut un peu de préparation et surtout, il faut avoir un plan précis pour avoir des beaux résultats.
Sortie de boîte.
Daniel Knouti, comment est-ce que vous faites pour être toujours à la page des dernières techniques, des dernières nouveautés, des dernières évolutions?
Alors, on lit les publications et puis on visite beaucoup de congrès. À la fin, c'est comme une grande famille de chirurgiens plasticiens. On se retrouve une fois à New York, une fois au Brésil, une fois ailleurs en Australie. Et c'est ça qui est passionnant. Et donc, les nouvelles idées, ils circulent et on reste vraiment on top. C'est clair, si vous restez à la maison, vous faites comme vous avez toujours fait à un moment donné, c'est ancien.
Justement, quelles sont les dernières nouveautés en matière de chirurgie esthétique?
La cryolipolyse, elle est assez récente, donc là, on peut détruire la graisse avec le froid. C'est assez connu déjà maintenant. Après, ce qui est tout récent, c'est les implants mammaires qui sont 30% plus légers par rapport au volume. Ça, c'est quelque chose de tout nouveau qui n'est pas vraiment encore sur le marché, mais que j'ai la chance de déjà utiliser. Après, on avait déjà dit, les techniques s'affinent tous les jours un peu.
Lorsqu'on parle de chirurgie plastique, de chirurgie esthétique, on pense souvent d'abord aux femmes. Est-ce que vous avez uniquement des clientes féminines?
Pas du tout. Il y a beaucoup d'hommes, et de plus en plus d'hommes, on peut dire. Bon, pas autant que les femmes, mais il y a peut-être... Longtemps, il y avait une dizaine de pourcents. Maintenant, je dirais, c'est 20-25% qui sont des hommes. Nous, on propose aussi, et ça j'ai oublié avant, les greffes de cheveux. Donc, j'ai une spécialiste qui fait les greffes de cheveux. Et là, c'est 99% des hommes, évidemment. Sinon, je dirais 25% les hommes. Et puis, le reste, c'est quand même des femmes, oui.
On imagine que vous avez une clientèle de tous les âges, hein, très jeune déjà pour des opérations chirurgicales, mais aussi des dames âgées qui veulent, par exemple, des liftings. À partir de quel âge est-ce que vous pouvez opérer un patient?
Alors, vous pouvez opérer un patient dès la naissance. Tout dépend du problème qu'il a. Mais si vous prenez un enfant avec un bec de lièvre, on l'opère très très tôt, parce que si c'est un bec de lièvre grave, il peut pas. C'est difficile à le nourrir. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui sont à 90 ans encore en bonne santé, qui demandent un lifting. C'est tout à fait possible.
Combien est-ce que de personnes passent sur votre table d'opération en un mois?
Ouh là là, c'est une question difficile. Peut-être une trentaine d'opérations plus conséquentes, et encore une trentaine de petits gestes comme des retouches de cicatrices, des petites tumeurs, etc. Et puis évidemment, à part ça, il y a toutes les interventions non chirurgicales qu'on a mentionnées, Botox, acide hyaluronique, le peeling, etc., cryolipolyse, et puis épilation avec le laser.
Est-ce qu'ici, dans l'arc jurassien, vous avez de la concurrence, Daniel Knouti?
Oui, il y a plusieurs plasticiens, à Berne, dans le Jura, Neuchâtel, tout autour, et c'est très bien. Ça dynamise, ça donne un peu du dynamisme dans ce domaine, je crois.
Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer? Vous vous démarquez parce que vous avez une spécialité ou parce que les gens parlent de vous de bouche à oreille et d'autres clients reviennent parce que ça s'est bien passé pour eux?
Moi, j'ai l'avantage, on l'a mentionné, que j'étais le premier dans la région biennoise. Donc, les gens me connaissent. Et puis, je pense que même aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est le plus important moyen. Et puis après, il y a l'Internet qui est devenu très, très important ces temps, parce que les jeunes, ils vont tout de suite sur Internet pour s'informer. Donc, c'est important d'avoir un bon site. Et c'est peut-être les deux choses les plus importantes.
Quand on parle de chirurgie esthétique, on s'attend toujours à des tarifs exorbitants. Quelle est la fourchette de prix d'une intervention?
Et là aussi, ça peut commencer à quelques centaines de francs. Si vous pensez à un traitement de Botox ou d'acide hyaluronique, ça peut être 300 francs, 500 francs. Et puis si c'est une intervention chirurgicale en narcose qui dure plusieurs heures, ça peut coûter 15 000 francs ou même plus.
On parle de plus en plus ces temps, surtout des jeunes personnes qui vont se faire opérer à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Ce tourisme médical, c'est un phénomène sur toute la planète. C'est surtout ici chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui partent parce que on est un pays cher. Et ils peuvent avoir la même intervention peut-être trois fois moins chère en Turquie, en Tunisie. Et les désavantages, c'est que souvent on ne connaît pas son chirurgien. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien là-bas, mais s'il y a un problème, et on peut avoir des problèmes dans ce domaine, après, on est moins bien protégé, on est peut-être déjà à la maison quand le problème se manifeste, on doit retourner, c'est un peu ça. Aussi, la situation légale est très différente en différents pays, et en Suisse, on a un système légal qui est très parfait, qui protège bien le patient. Les médecins, ils ont tous une assurance, donc là, on est aussi bien tenu.
On passe de la chirurgie à l'horlogerie, et cette semaine, Marie-Lise Saillard nous parle d'un modèle assez particulier d'horloge.
Pile à l'heure.
Vous entendez souvent ce terme, mais combien d'entre vous savent réellement ce qu'est une horloge atomique ? Si on se réfère à la définition de Wikipédia, accrochez-vous, il s'agit, ouvrez les guillemets, d'une horloge qui utilise la pérennité et l'immuabilité de la fréquence du rayonnement électromagnétique émis par un électron lors du passage d'un niveau d'énergie à un autre pour assurer l'exactitude et la stabilité du signal oscillant qu'elle produit. Fermez les guillemets. Si vous n'avez rien compris, on ne peut pas vous en vouloir. Mais dans ce cas, ne lisez surtout pas la suite de l'article Wikipédia, c'est encore plus compliqué.
J'ai mal à la tête.
Pour simplifier, je dirais qu'à la différence d'une horloge mécanique qui utilise un pendule et d'une horloge à quartz qui utilise
le quartz.
Oui, oui, ah oui, oui.
Le quartz, bravo. Eh bien, une horloge atomique utilise des atomes dont les oscillations sont particulièrement rapides et régulières, ce qui en fait un instrument de mesure du temps particulièrement précis. Ainsi, les horloges atomiques sont des références. Et figurez-vous que le laboratoire temps fréquence de l'université de Neuchâtel a développé de nouveaux lasers pour horloges atomiques. Hey, range ton sabre, Jedi. Le résultat est parlant, la précision est 10 fois plus grande qu'une horloge atomique habituelle. Une seule petite seconde de décalage est enregistrée tous les 6 millions d'années. Le laboratoire temps fréquence de l'Uni de Neuchâtel poursuit son travail. Des chercheurs ont annoncé tout récemment avoir testé et approuvé l'impression 3D dans la fabrication d'horloges atomiques destinées à l'espace.
Pile à l'heure.
On arrive au terme de cette émission. Daniel Knouti, quelles sont les perspectives pour votre clinique ?
Alors, vu mon âge, je vais gentiment regarder pour trouver un partenaire ou un successeur. Après, il faut réfléchir un peu comment va se développer la chirurgie esthétique. Et là, je pense qu'il y aura de plus en plus une super spécialisation, que les gens seront obligés de se spécialiser, par exemple, pour le nez, pour le lifting, pour les seins, tandis que à mon époque, on faisait encore un peu tout ça, ce qui est passionnant évidemment, mais la demande des gens, c'est quand même envers une super spécialisation.
Daniel Knouti, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Très bonne soirée.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine, Alexandre Steiner enfile son costume de démineur. Il reçoit Frédéric Guerne, le directeur de la fondation Diger. Excellente soirée, à bientôt.
Sortie de boîte.